Avec Heidegger, les choses basculent entièrement, dans la mesure où l'être humain est pensé à partir du Dasein, ce qui signifie que la distinction entre la partie sensible et la partie rationnelle n'a plus de signification. Ainsi, ça libère un véritable champ pour mettre poésie et philosophie sur un pied d'égalité, dans la mesure où la pensée n'est plus considérée comme une simple activité de la raison, et la poésie n'est plus simplement regardée comme une activité imaginative sensible. C'est d'ailleurs ce qu'appréciait particulièrement René Char quand, après la première rencontre, sous le marronnier avec Jean Beaufray, il a dit à Jean Beaufray, le soir même, qu'il aimait particulièrement Heidegger et il avait aimé cette rencontre parce que, pour la première fois, il rencontrait un philosophe qui ne lui expliquait pas qui il était, ce qu'il avait à faire, ce qu'il avait à penser. Ainsi, grâce à Heidegger, un dialogue est possible dans la mesure où l'être humain est pensé à partir de la mise en résonance de la parole et s'ouvre dès lors une possibilité de véritable dialogue où poète et penseur se rencontrent dans le rapport à la parole, dans le rapport que la parole entretient avec l'être humain et avec son humanité.
René Char, 1964.
Les quelques impressions anciennes que je vais dire sont apparues souvent à l'intersection d'une lecture endurante, selon le mot de Jean Beaufray, des grands textes de Martin Heidegger et de l'exercice quotidien d'une vie d'homme que nous sommes nombreux à avoir tenté d'égaliser sans la dépeindre par le haut et par le bas. Elles sont un hommage de respect, de reconnaissance et d'affection à Martin Heidegger. La perspective d'un paradis hilar détruit l'homme. Toute l'aventure humaine contredit ceci et pour nous stimuler et non nous accabler. Comment délivrer la poésie de ses oppresseurs, la poésie qui est cartée énigmatique et hâte d'accourir en les découvrant, les annule.
C'est à partir de cette écoute de la parole que s'ouvre une autre entente de la poésie. Quelle est la singularité de l'écoute de la parole que met à jour Martin Heidegger?
Disons qu'il essaie d'aller vers une parole qui ne soit pas que communication.
Pierre Jasserme.
Il essaie de montrer que la parole n'est pas seulement un instrument de communication. Et donc, il se dirige vers une, comme il le dit en citant Novalis, vers une parole qui parle pour parler. Hein, il y a cette belle phrase de Novalis que Heidegger répète, parler pour parler est une délivrance. Il s'agit de, en quelque sorte, de faire accéder la parole à elle-même. Il s'agit de la libérer. Et en particulier, de la libérer du carcan, disons, de la grammaire, de la syntaxe, qui est au fond un carcan métaphysique. Donc, toute la difficulté, c'est de permettre à la parole de ne pas d'emblée objectiver les choses, mais de les laisser être.
Est-ce que c'est parce que il y a cet effort pour ne plus avoir un rapport métaphysique à la parole que s'ouvre cette entente neuve à la poésie chez Martin Heidegger?
Absolument. À ce moment-là, il y a un autre espace qui s'ouvre. C'est-à-dire, si je comprends que la parole peut laisser être au lieu, pour ainsi dire, de figer, alors ça donne un espace inhabituel de liberté où je peux tout percevoir autrement. Hein. Pensez à ce vers de Rimbaud dans Les Illuminations, le poème Enfance. Au bois, il y a un oiseau. Son chant vous arrête et vous fait rougir. Bon, au bois, il y a un oiseau. Vous voyez, ici, ce qui se passe, c'est que il y a un espace énorme qui est libéré par cette phrase extrêmement simple, mais où Rimbaud, en prononçant le « il y a », atteint de suite un espace où il peut y avoir le bois, où il peut y avoir l'oiseau, où il peut y avoir nous qui entendons l'oiseau, etc., etc. C'est-à-dire que tout le problème, c'est d'arriver à entendre la parole parler.